Coucou, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voudrais féliciter le président Francis Virpin pour le choix de cette musique de jingle que je trouve toujours très belle, une belle musique. Nous sommes aujourd'hui vendredi, effectivement, la veille du confinement, la veille du, pas du confinement, mais du futur couvre-feu. Donc la radio de l'Entre-deux-Mers n'est pas concernée, bien entendu, et la région de Bordeaux non plus. Mais la radio de l'Entre-deux-Mers s'associe, bien entendu, à toutes les régions et à tout le monde, à tous ceux qui vont, je dirais, devoir eh bien, prendre des mesures et vivre différemment. Une période difficile, période compliquée. Nous ne sommes pas là pour politiser, mais nous sommes là pour comprendre qu'il faut penser non pas seulement à soi, mais penser aux autres. Donc respectons toujours les gestes barrières, ça c'est hyper important. Respectez et respectons non pas nous-mêmes, mais les autres, ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous. Donc je pense à tous les jeunes, je pense à tous ces jeunes en formation, je pense à tous ces intermittents du spectacle, je pense à tous ceux qui sont touchés indirectement et directement par cette Covid, puisque c'est une fille, on le sait, c'est la Covid et non pas le Covid. Eh bien je voudrais, à travers l'émission C'est beau, c'est bon, saluer tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le besoin, dans la précarité. Eh bien nous vous apportons un bol d'air frais et nous compatissons le plus possible avec vous. Voilà, donc on va s'en sortir, on va y arriver. Comme l'a dit hier le président, c'est tous ensemble, il faut se fédérer, il faut faire une grande chaîne d'union à travers toute la France, et puis penser à ces 10 régions qui sont touchées de plein fouet par ce couvre-feu de 21h à 6h du matin, mais je pense qu'il fallait en passer par là aussi, sans porter valeur de jugement. Il faut dépolitiser tout ça et puis essayer de comprendre que c'est de la France, que c'est de la population, puis que c'est de l'Europe et que c'est du monde dont on parle. Voilà. Cela est dit, je vous souhaite une bonne émission. Ce vendredi, veille de week-end, eh bien, vous allez peut-être vous réunir. Je le rappelle, hein, ne vous réunissez pas trop dans des petits appartements. Et aérez régulièrement, même si les premiers frimas de l'automne sont en train de poindre. Voilà, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante. Eh oui, d'une chose importante, parce que elle me tient à cœur et elle tient à cœur à la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4 et je ne reçois pas n'importe qui dans cette émission, vous le savez. Je reçois des personnalités, je reçois des hommes, des femmes, qui ont en commun une passion. La passion, celle de faire les choses, et la passion, c'est la force de croire. Donc je reçois aujourd'hui un collaborateur très proche de la radio et c'est une fierté pour moi, et c'est une fierté pour nous et c'est une fierté pour vous parce que nous allons parler de cépages. Alors, bien entendu, quand on parle de cépage à Bordeaux, on pense tout de suite aux raisins et aux vins. On serait en Franche-Comté, on serait dans les Alpes, on penserait cépage de lait pour le fromage. Eh bien non, là nous allons parler de cépage de céréales. C'est-à-dire ce qu'il va donner naissance, partir du terroir à la céréale. La céréale va être transformée en farine, la farine va être transformée en pâte, et la pâte va devenir du pain. Voilà. Ce pain quotidien que nous consommons, qui fait partie de notre patrimoine bien français, eh bien, on va en parler avec Damien, parce que lui, il a des choses à vous dire, et vous avez des choses à entendre, et vous avez des choses à savoir. Dans les années 60, il y avait sur la radio, qui s'appelait à l'époque Radio Luxembourg, et non pas RTL, une femme. Cette femme s'appelait Geneviève Tabouy. Elle était journaliste, et tous les dimanches matins, elle avait une rubrique qui s'appelait « Attendez-vous à savoir ». Eh bien, attendez-vous à savoir ce que ce petit grain de blé au départ que l'on va planter dans la terre va nous apporter. Donc Damien, bonjour.
Bonjour.
C'est une fierté, un plaisir et un honneur de te recevoir et d'être avec toi. Alors, il doit faire 1m80, non, à peu près ?
Oui, 83.
Ah oui, quand même, 183 cm, donc il y a un joli bébé. Il a des lunettes rondes qui lui vont bien. Il a des yeux, je dirais, qui me rappelleraient un petit peu la chanson de Barbara, l'aigle noir. Il a sa petite barbichette, il a ses petits cheveux tressés. Il est mignon, il est sympa, il est adorable. Je dis ça s'il y a des jeunes femmes qui sont en quête d'amoureux. Ben il est là, devant moi. Il va nous parler de ce qu'il a décidé de faire, c'est-à-dire dans le respect des traditions, dans le respect dans le respect du respect, en fait, voilà, c'est ça. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais, où tu le fais, parce que je crois que c'est dans un petit village de 300 âmes qui vivent.
C'est ça.
C'est où exactement ?
Barry. Barry, c'est un village qui est entre le canal et la Garonne, au départ du canal, entre Castets-en-Dorthe et La Réole.
Voilà, d'accord, donc c'est à une poignée de kilomètres de Sauveterre de Guyenne.
C'est ça, on est à une demi-heure de route.
Une demi-heure de route, donc il y a 300 âmes qui vivent, mais il y a un terroir et il y a des céréales, et tu as décidé, qu'est-ce qui t'a motivé pour du jour au lendemain basculer dans l'envie de faire cette pâte à pain, de faire ce pain ?
Eh bien, quand je suis arrivé à Barry en 2013, dans la vallée, et à Barry, avec ma compagne et les enfants, on a rencontré les gens du village, on a monté une association pour se retrouver, pour échanger, parce qu'à Barry, étant en zone inondable, il y a pas de commerce, il y a pas d'école, il y a rien pour se rencontrer, on va dire. Ça pourrait être un village dortoir, mais c'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, justement, dans la même idée, c'est de retrouver la vie de village.
Ça s'écrit comment, Barry ?
B-A-R-I-E.
D'accord, ne pas confondre avec le chien des années 60, Barry, chien fidèle. Tu te rappelles, Francis ?
Le Barry, chien loup.
Oui. Tu peux continuer,
et,
Damien.
Et du coup, dans ce village, on a rencontré des personnes, et notamment un autre Damien, avec qui est Damien Tauzin, avec qui on a sympathisé, on a discuté, on a échangé sur plein de choses, et notamment notre point de vue au niveau agronomique, au niveau façon de vivre. Et il y a 3-4 ans de ça, un jour, j'ai récupéré un levain. Un levain qui a...
Alors, explique-nous ce que c'est que le levain. Tu l'as récupéré d'où ? Quel âge il avait,
c'est
ce levain ?
Le levain, c'est tout simplement de l'eau et de la farine qui est mélangée et qui, à un moment donné, fermente et donc crée la vie. Et grâce à ce levain, on peut fermenter d'autres farines avec de l'eau, et faire de la pâte et faire du pain. De la pâte levée, quoi.
D'accord. Mais il faut savoir qu'un levain qui vit, il faut le nourrir.
C'est ça.
Il faut l'entretenir.
Il faut l'alimenter.
Et c'est un peu comme un vinaigrier, en fait, mais avec de la farine et de l'eau.
C'est ça. Et alors, ce levain, la particularité, c'est qu'il avait été fabriqué en Uruguay par une famille de Bretons qui était partie faire le tour des Amériques en démarrant en Uruguay, en allant jusqu'au Canada, au Québec. Et du coup, ils étaient partis de Bretagne avec leur levain et arrivés là-bas, ils se sont retrouvés, ils l'ont oublié quelque part. Et du coup, ils en ont refait. Et donc, ils ont fait tout leur périple des Amériques avec leur levain pour pouvoir faire du pain au quotidien dans leur camion pendant leur voyage. Et revenu en Bretagne, je me suis trouvé avec eux et donc elle m'a parlé de son levain et elle m'en a filé un petit bout. Et donc ce levain, on l'a multiplié, on l'a emmené en Gironde et j'allais échanger avec Damien. Et puis on faisait notre pain à la maison. Et puis...
Alors il a quel âge ? Il a commencé à vivre quand ce levain ?
Et ce levain, c'était... ça devait être en 2015 ou 2016, 2015 ou 2014,
d'accord.
2015.
Donc 2015. Imaginez un petit peu ce levain qui est vivant, qu'il faut nourrir tous les jours, qu'il faut entretenir régulièrement pour qu'il continue de produire.
C'est ça.
Donc tu l'entretiens, il a fait le tour du monde ce levain.
Et donc oui, il a fait une bonne partie du monde et puis il est revenu là. Et puis du coup, de fil en aiguille, on s'est mis à faire du pain à chacun chez soi. Comme ça, à titre familial, et puis à un moment donné, ça nous a quand même botté d'en savoir un peu plus, donc on a fait un stage sur un week-end dans les Landes, pour avoir un peu plus de technique au niveau du boulage, au niveau du pétrissage et autres. Et puis un jour, en fait, un voisin nous, que vous avez reçu dans l'émission, l'Oseret de Lille, Corentin Laval et Karen Gossard, ils ont décidé de restructurer leur exploitation. Donc, ils faisaient de l'osier, mais ils faisaient beaucoup d'osier pour le vin, pour la viticulture, pour attacher les vignes, pour la tonnellerie. Et eux, à la base, ils sont vanniers. Et du coup, ils étaient plus occupés par leur activité de producteurs d'osier que de vannerie. Et donc, ils ont décidé de restructurer leur exploitation. Et ils nous ont proposé les terres en fermage. Ça, c'était l'année dernière, en 2019. Et là, on s'est dit, des terres à Barry en fermage, on n'en aura pas deux fois l'occasion, quoi. Parce que Barry sont quand même des terres d'alluvion. On est en bord de Garonne, donc c'est régulièrement inondé et ce sont des terres qui sont très fertiles. Et du coup, on s'est dit, allez, on saisit l'occasion, on prend les terres en fermage.
Combien d'hectares ?
Donc à la base, ça devait être 6. Donc on s'est dit, c'est bon, c'est un challenge, c'est réalisable. Et en fait, en réfléchissant, Karen et Corentin nous ont dit, allez, on vous file 20 hectares, donc si vous êtes partant, vous pouvez prendre la totalité.
20 hectares, imaginez ce que ça fait, 20 fois 10 000 mètres carrés.
C'est ça. Et on s'est regardé, et vu qu'on est dans une réflexion autour de l'agriculture de préservation, du non-travail des sols, de la restructuration des sols par des couverts végétaux, de la rotation des cultures, on s'est dit, 20 hectares au final, c'est pas non plus fou, ça fait 7 hectares en culture par an, c'est pas non plus dément. Donc on a accepté et on est parti là-dessus. Donc ça, c'était au mois de mars 2019.
D'accord.
Et donc on a discuté, on a échangé, on a avancé. Et là, on s'est dit, ben voilà, comment on fait, où on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, déjà, un des points qui nous a paru facile, c'était la partie culture. Non pas que ça soit facile, mais on n'avait pas acheté de matériel, car il y a une CUMA de matériel à Barry. Et donc, une CUMA, c'est un organisme où le matériel est acheté en commun par différents paysans. Et du coup, ben, on n'avait pas besoin d'acheter notre matériel de mise en culture.
La CUMA, c'est une coopérative, en fait.
C'est ça. C'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole.
Et on paye à la location.
On paye des parts sociales et après, on paye le matériel à l'utilisation. Et du coup, ben, on est parti là-dedans en se disant, c'est bon, on n'a pas acheté de tracteur, on n'a pas acheté d'outils. Déjà, ça sera un moindre investissement. Et après, l'idée, c'était pas de faire de la céréale pour faire de la céréale, c'était de faire de la céréale pour la valoriser et la transformer. Et donc, vraiment, on était parti sur le pain, parce que c'était quelque chose qui nous concerne au quotidien. Tous les jours, on mange du pain, tous les jours, la plupart des personnes environnant mangent du pain, et c'est du bon pain, c'est devenu rare, en fait. Ce qu'on s'est aperçu, c'est ça, c'est que acheter du bon pain en boulangerie, ben c'est rare, surtout dans nos campagnes. Souvent, c'est du pain le soir, soit il est trop dur, soit il est trop mou. Le lendemain, on n'imagine même pas le manger. Donc, on est parti là-dedans, dans maîtriser la chaîne de fabrication de A à Z, semer la graine, le transformer en pain. Mais en même temps, même si tous les deux, on a fait des études en agriculture à l'époque, on n'était pas non plus boulanger, quoi. Et donc, on s'est formé, on a fait une formation en septembre l'année dernière, chez Nicolas Supio, qui est j'ai envie de dire un ponte de la paysannerie-boulangerie, qui nous a formés donc allant de la graine au pain.
Il se situe où, lui ?
Il se situe à Mort en Bretagne, dans le pays de Redon, non loin de Rennes. Et donc on s'est formé là-bas. Donc on a appris, voilà, la culture. Et le pain, la fabrication du pain, hein, et ça nous a beaucoup décomplexé aussi, notamment par rapport au levain, où le levain, c'était quelque chose d'un peu stressant par rapport à la mer, ce levain mer qu'il faut garder et ne jamais utiliser. Lui nous a dit, mais c'est une bêtise parce que t'as un levain mer, t'en prélèves une petite partie et tu fais ton pain avec. Et puis la semaine d'après, tu en reprélèves une petite partie et tu fais ton pain avec. Mais du coup, ton levain, il n'a jamais fait de pain. Donc en fait, ce que lui, il fait, c'est qu'avec sa pâte qui est pétrie, dans laquelle il a mis un bout de levain, eh bien, il prélève un bout de pâte qu'il garde dans un coin. Et ce bout de pâte servira de levain pour la fois d'après.
D'accord.
Comme ça, la pâte, elle a l'histoire de tous les pains qui ont été faits au fur et à mesure. Et ça nous a vachement décomplexé. Et en même temps, c'est moins compliqué à conserver cela qu'un levain mère, parce que la pâte, tu la laisses et tu l'utilises la semaine d'après, tu sors la pellicule qui est un peu durcie par-dessus, et puis, oui. Et puis après tu l'utilises. Et donc voilà, de fil en aiguille, on s'est formé et on a créé une société à l'automne l'année dernière pour pouvoir semer, parce que vu qu'on avait les terres qui étaient cultivés jusqu'au ramassage des maïs, après il fallait pouvoir semer pour lancer vraiment, parce que
bien sûr,
si tu mets pas ton grain au sol en agriculture, si tu attends un an, mais enfin si tu passes le cap de la période de semis, il faut attendre un an pour pouvoir continuer à semer. Donc on a semé l'année dernière les premières parcelles en octobre et les dernières en novembre. Et on a réussi à semer parce que le blé l'année dernière, ça a été très compliqué avec l'automne et l'hiver pluvieux qu'il y a eu. Il y a eu énormément de blé qui n'ont pas été semés. Du coup, nous, on a réussi à semer. Et après, malgré tout, le temps était humide, la terre était humide, et du coup, c'était compliqué sur une partie des terres. Et sur celle dont c'était moins compliqué, en décembre, la Garonne a eu la bonne idée de déborder.
Très bien.
Et donc, on a pris entre 1 et 3 mètres d'eau, suivant les
Donc on a
parcelles.
regretté de ne pas avoir planté du riz.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on s'est dit durant tout l'hiver, que là, on pourrait se mettre au riz, ça serait pas plus mal, quoi.
Voilà, merci l'oncle Benz.
Et du coup, ben, on a pris l'eau en décembre, et une semaine après, on a repris l'eau. Et c'est là qu'on s'est dit que les petites graines qu'on avait semées, qui est un cépage de blé de rouge de Bordeaux, une variété ancienne, parce que l'idée c'est ça aussi, c'était de conserver les cultures, travailler dans la préservation des semences et ne pas utiliser de semences inscrites au catalogue
Bien sûr.
obligatoire, c'était d'essayer de préserver ces semences anciennes. Et donc on a pu récupérer du rouge de Bordeaux, qui est une, on va dire, des plus récentes semences anciennes qu'on ait trouvées. Et donc elles étaient semées depuis 3 semaines pour les dernières et elles se sont accrochées. Et malgré le flux de la Garonne, malgré la quantité d'eau qu'il y a eu, eh bien les petites brindes d'herbe sont restées et on continue à pousser.
Les pousses ne se sont pas étouffées, quoi.
Non, on a eu de la chance que voilà, c'était vraiment de l'eau qui est passée et qui est redescendue après. Et il y a une parcelle de seigle qu'on avait ensemencée en seigle qui a resté 72 heures, mais ça a mis un peu de temps à reverdir, mais c'est reparti après au printemps sans problème.
Elles étaient pugnaces, celles-là.
Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est dit que voilà, des variétés anciennes, elles ont envie de vivre, elles sont là, elles ont envie de se régénérer, quoi. Et
Donc, première récolte, combien de blé?
donc, première récolte en juillet,
2020?
juillet 2020, on visait 20 quintaux hectares. On a dû ramasser entre 15 et 18. Donc, ce qui est
24 hectares sur 7 hectares.
sur 7 hectares, oui,
Ça fait 140 en prévision.
c'est ça. Et on a dû ramasser voilà, entre 15 et 18 quintaux hectares, donc une dizaine de tonnes, ce qui était bien. Enfin, on était content par rapport surtout à la récolte assez catastrophique de certains voisins qui ont fait entre un tiers et 50% de moins que d'habitude.
Mais vos voisins, eux, vendent le blé, eux.
Oui, ils vendent le blé, ils sont en coopérative, c'est du conventionnel, donc c'est pas
D'accord.
comparable au niveau des quantités. Mais on s'est dit, bon, voilà, au final, c'est pas si mal, surtout quand nous, on a semé la graine à l'automne et on l'a récoltée en juillet, on n'a rien fait entre-temps. Voilà, on a laissé faire la nature. On a semé également en association avec une autre plante qui est de la faverolle, qui est une légumineuse qui nous a servi à capter l'azote de l'air, l'azote qui se trouve dans l'air, pour la restituer à la plante qui pousse avec cette légumineuse, donc le
D'accord.
blé, pour donner de l'azote au printemps quand le blé en a besoin. Et ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu trop de saleté au niveau des champs, on n'a pas eu trop de maladies. Donc voilà, on était content de la
Malgré
récolte.
les inondations, parce que la flotte quelquefois amène des cochonneries.
C'est ça, mais là non, ça s'est bien passé. On était satisfait de cette première récolte, première expérience. Et
C'est
puis
ça.
voilà, c'est la première, donc on n'a pas de point de comparaison. Euh,
Bien sûr, non,
donc.
mais la première, c'est toujours. Même si ça n'est pas la meilleure, je dirais, la première fois, on s'en rappelle toujours. Ça marque.
Oui.
C'est quelque chose de marquant. Et puis, sur un projet tel que le vôtre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on va continuer la conversation. Mais avant, nous allons écouter un petit morceau de musique. Alors, vous savez que moi, j'aime bien passer des hommes et des femmes, des chanteurs à voix, des chanteurs à texte. Mais surtout des chanteurs ou des chanteuses que l'on ne passe pas très souvent dans les radios, FM. Donc j'ai pensé à un monsieur qui nous a quittés en 74. Oui, je sais, il est encore parti bien jeune, il avait une petite quarantaine d'années. Il se prénommait Bobby Lapointe, il se nommait Bobby Lapointe, et c'était un chanteur des années 70, et il va nous chanter Framboise.
Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était d'Antibes, qu'elle a vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas? Je ne sais pas. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ha ha ha. On peut dans le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Y'a un institut d'Angers qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout changer. Excepté ce qu'on ne peut pas, qu'elle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage. Avantage, davantage. Lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins. 2 x 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré. Et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin.
Les jeux de mots, et oui, ça c'était la spécialité de ce sacré Bobby Lapointe qui sillonnait la France dans les MJC à l'époque, les maisons des jeunes de la culture. On payait 5 francs pour aller le voir, 5 francs moins d'un euro pour aller applaudir Bobby Lapointe. Voilà. Il nous a quittés bien trop tôt, cette saloperie de cancer nous touche bien tout le monde, toutes les familles, tout le monde est touché. Je suis avec Damien, nous sommes avec Damien, 98.4, vous êtes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mers, nous sommes à Sauveterre de Guyenne, nous sommes en direct. C'est vendredi, la veille du week-end, et la veille, bien entendu, du couvre-feu. Voilà. Donc, j'étais avec Damien, et Damien nous expliquait un petit peu son parcours sur la céréale. Nous n'avons évoqué pour le moment que le terroir, que les origines, que la genèse de ce qui va devenir, eh bien, non pas une légende, mais une véritable histoire, une très belle histoire de pain, une très belle histoire de, je dirais, moderne. Et puis, moi, ça me fait penser à Pomponnette. La salope, oh là 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 là, rappelez-vous Rému dans La femme du boulanger, ce film en noir et blanc, ah là là Rému, toi aussi tu nous manques, quel talent et quelle compétence. Damien, vous avez planté donc 7 hectares, on était en train de discuter hors antenne du nombre de kilos de graines qu'il fallait, enfin de céréales qu'il fallait pour ensemencer, en fait, pour planter sur un hectare. Donc, vas-y, on peut reprendre là.
Eh bien, là, nous, l'année dernière, on était parti sur 120 kilos à l'hectare. Je pense qu'on a eu des soucis au niveau du semoir et on a dû semer un peu plus. Et voilà, on vise entre 120 et 150 kilos à l'hectare. Après, ça dépend de la période de semis aussi. Plus tu sèmes tôt, plus tu peux semer large, et je sais qu'il y a des variétés qui se sèment à 30 kg à l'hectare, en les semant en juin, par exemple. Et après, plus tu sèmes tard, plus il faut semer dense, parce que le tallage se fait moins. Et
bien sûr.
Le tallage, c'est le nombre de pousses qui repartent, parce qu'on plante un grain de blé, il y a une première touffe d'herbe, et en fait, le tallage, c'est le nombre de pousses d'herbe qu'il y a en plus. Et ça peut après s'élever à 30 tales, 50 ou 100 suivant les variétés quoi. Donc tout est possible. Mais nous voilà, on est parti sur 120 à 150 kilos à l'hectare.
D'accord. Donc sur 7 hectares, il faut presque une tonne de céréales en gros.
C'est ça. L'année dernière, c'est ce qu'on avait. On avait récupéré une tonne pour pouvoir semer tout ça. Quoi.
Et tu me disais, ça vaut à peu près entre 800 et 1000 euros la tonne, en fait.
Là, oui, l'année dernière, sur ce rouge de Bordeaux, c'est le prix qu'on avait acheté. Quoi.
C'est le prix, oui, d'accord. Donc, tu nous as parlé de cette première pousse cette première, ce premier semis que vous avez fait sur ces 7 hectares. La récolte, donc moi j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez récolté. Donc vous avez semé au mois d'octobre, novembre ?
Entre octobre et novembre, on a ramassé tout notre rouge de Bordeaux le 9 juillet.
Et qu'est-ce qu'on fait de la récolte alors ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
Et donc, ça c'était une question parce que on vit tous les deux avec Damien sur Barry. On a tous les deux des maisons avec dépendance, on va dire. mais c'est pas non plus des fermes. On n'était pas équipés quoi. Et donc, on s'était dit, allez, on va acheter des silos à grains et puis des cellules. On va les stocker dans un garage que j'ai. Et en fait, avec les inondations de décembre, les risques de débordement par-dessus des digues de la Garonne, les voisins qui nous ont dit « Oula, si vous mettez au rez-de-chaussée, ça va être compliqué », ça avait un peu révisé nos plans. Et donc, chez moi, j'ai une dépendance avec un plancher béton à l'étage. Et donc, on s'est dit « Allez, on va semer là, on va stocker ici ». On va stocker ici, mais il faut renforcer le bâtiment, il faut renforcer la charpente quand même pour pouvoir faire un plancher. Donc on va stocker au sol à l'ancienne, sans se mettre en cellule.
C'est drôle.
Au sol pour pouvoir mieux gérer également les variations de température.
Oui, qu'il n'y ait pas de fermentation.
C'est ça.
Parce qu'après, ça peut provoquer des incendies. C'est compliqué, la céréale.
C'est assez compliqué. Donc vraiment, ce qu'on voulait faire en toute part, c'était vraiment gérer le tri aussi. Et gérer le tri à la récolte. Parce que mine de rien, la moissonneuse, elle a beau faire le meilleur travail qu'elle fait, il y a toujours des herbes qui sont récupérées, des graines, de la semence verte, enfin pas de la semence verte, de la matière verte, qui est là avec le grain. Et donc on a trouvé un trieur du côté de la Drôme, me semble-t-il, un trieur qui s'appelle de marque Denis. Donc c'est un trieur alvéolaire et ça vibre. Ce sont des plaques, des tamis qui vibrent et qui séparent donc la partie verte des grosses graines et tout ça. Et donc on a pu récupérer une semence propre, du moins exempte de toute matière végétale, qu'on a pu stocker là-dedans. Et on l'a ventilé pendant les 2 mois là, de juillet, du moment de la récolte jusqu'à fin août. On a ventilé ça tous les jours pour permettre le refroidissement, on va dire, de cette récolte et aussi le fait que les insectes, nos amis insectes, qui peuvent pondre sur cette récolte et bousiller toute la récolte parce que les larves se nourrissent de l'intérieur des graines. Donc on a ventilé tout ça, on a essayé de bien gérer la température. Et pour le moment, tout se passe bien. Donc c'est bon, on a arrêté de ventiler. Et la récolte est bonne. Et c'était assez impressionnant de cette odeur de récolte fraîche, on va dire. Au fur et à mesure de l'été, on avait vraiment une odeur de céréales quand on rentrait dans le bâtiment, une odeur qui se répandait et qui nous enivrait l'essence. Et c'était vraiment très agréable.
Un peu comme quand on rentre dans un chai au moment de la vinification.
C'est ça. Ouais.
Alors, maintenant de la graine à la farine. Alors, explique-nous un petit peu, parce que là, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait et comment vous avez procédé pour obtenir de la farine.
Eh bien, déjà, pour obtenir de la farine, il nous fallait un moulin. Et donc, même s'il y a des moulins à eau dans la vallée, il n'y en a pas en activité et on n'en a pas en notre possession. Donc,
il faut aller à l'Assemblée nationale, il y a des moulins à parole.
Ça ventile, oui. Et du coup, on a contacté un fabricant de moulins dans le Tarn. Et en fait, on était branché sur les moulins de type Astrier, donc des frères Astrier qui sont des moulins en meule de granit, de cidre.
Je précise que le granit est de la pierre. Hein.
C'est ça, de la pierre. Et c'est un artisan, Yves Lemasson, dans le Tarn, pas loin de l'Aveyron, qui nous a fabriqué ce moulin. Donc il est fabricant de moulins et c'est son activité. Donc on a pris un petit moulin, une meule de pierre en 50 cm de diamètre, avec une meule carrée fixe et une ronde qui tourne. Et donc elle est travaillée de telle façon à ce que le grain est déroulé en fait. Le grain n'est pas écrasé,
d'accord.
Il n'est pas chauffé. Est le grain est vraiment déroulé. Pour être ouvert et la farine est extraite Et après, le son, lui, est évacué en sortie de...
Vous avez bien entendu, alors, vous avez bien entendu. Je vais revenir sur un point important que Damien vient de souligner. Il parlait d'échauffement. Ben oui, bien entendu, à partir du moment où il y a une action et un mouvement, il y a nécessairement dégagement de chaleur. Si vous mettez, imaginez que vous mettiez une graine de céréales dans un mixeur, vous allez la pulvériser, mais vous allez la chauffer en même temps. Vous allez la brûler, vous allez la détruire et la tuer. Là, il faut que le moulin tourne de façon régulière, de façon lente, et que le mouvement du moulin puisse donner naissance à une céréale qui ne soit pas brûlée. Voilà, ça c'est important de le savoir. Il y a toujours un échauffement dès qu'il y a manipulation et mouvement.
C'est ça, et là, au niveau de la, on doit être à entre 10 et 12 kilos à l'heure de grains moulus. Donc c'est pas non
c'est
plus...
10, alors ces 10 à 12 kilos de grains moulus à l'heure vont te donner combien de farine ?
Il y a à peu près un rendement de 80%. Donc sur 10 kilos de grains, on récupère 8 kilos de farine.
D'accord, c'est ce qu'on appelle une T80.
Voilà, c'est, on est entre T80 et T110. On a un tamis de 400 microns.
Donc... Alors explique ce que c'est que du 110, parce que là, les gens ne vont pas le comprendre. Parce que normalement, quand on met 10 kilos de céréales, on récupère 8 kilos de farine. Donc c'est-à-dire qu'il y a... 2 kilos de déchets, de son, en fait, qui n'est pas utilisé, tout du moins pour faire du pain. La farine que vous achetez dans le commerce est une farine généralement blanche, c'est de la T45, T50, farine classique dans le commerce, toute blanche, qui vous permet de faire des pâtes, de la pâtisserie, des gâteaux, des béchamels, bref, et autres préparations. Mais elle n'a pas beaucoup de valeur alimentaire. Il faut savoir que dans la céréale, il y a une enveloppe péricarde, et dans cette enveloppe péricarde, il y a le germe, et le germe est bourré de protéines et de matières grasses. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que veut dire 80 par rapport à 110? Est-ce qu'on obtient plus de farine?
Alors là, je ne sais pas te répondre exactement. Peut-être tu vas me donner la réponse.
Ah non, pas du tout, non, pas du tout, parce qu'on voit de la farine qui va jusqu'à T150.
C'est ça, je sais que la 150, c'est de l'intégrale, donc le petit son a été réintégré. À la farine. Après, là, je ne sais pas te dire. Là, c'est le fabricant de moulins qui nous a dit qu'en début de bluterie, en début du tamis, c'était la T80 et en sortie, c'était la T110, si on voulait, en équivalent de T. Nous, on s'en fiche parce qu'on ne fait qu'un seul type de pain, donc on ne réfléchit pas par rapport à ça.
Donc, tu as utilisé un mot blutoir. Le blutage de la farine, le blutage de la céréale, c'est-à-dire de séparer les déchets que l'on ne va pas utiliser pour la farine, pour obtenir la farine. Donc là, c'est le blutage dans un blutoir.
Mm-hmm. Oui, donc c'est ça, la farine, elle sort de la pierre et elle tombe dans ce tamis, dans cette chambre où il y a le blutoir, et donc la farine est tamisée. Et en sortie, il y a le son qui sort, le petit son que l'on récupère pour alimenter le levain. Et le gros son que l'on donne à des cochons d'un élevage voisin.
D'accord, mais oui, ça c'est bien de donner ça à des élevages porcins, ils en ont besoin. Juste une question toute bête, l'investissement d'une meule, c'est cher ?
C'est un prix, je pense que celui-là il nous a coûté entre 8 et 9 000 euros. Oui. Donc c'est cher, mais je m'attendais à plus que ça, donc j'étais quand même agréablement surpris, quoi. Surtout pour du travail artisanal qui a été fait par une personne qui a tout fait de A à Z, qui a acheté certes les moteurs et autres poulies et courroies, mais c'est la pierre, peut-être c'est pas lui qui l'a taillée, mais c'est lui qui a fait les stries à l'intérieur, c'est lui qui a fabriqué le blutoir, qui a fabriqué toute la matière. Donc c'est vraiment un moulin artisanal, quoi.
Bien sûr. Donc vous avez récupéré votre farine.
Et donc maintenant, il faut la transformer.
Stocker, il faut la transformer.
Et mais pour parce que donc par rapport au stockage, on n'a pas de stockage de farine. On fait la farine dans la semaine qui précède le moment où on va la transformer pour garder le plus de valeur
alimentaire,
nutritive, et pour pas qu'elle s'évente.
D'accord. Donc c'est pas malin, c'est intelligent, Damien. Donc vous gardez la céréale. Chaque semaine, vous faites la quantité de farine dont vous avez besoin. Pour pouvoir effectivement, eh bien, tout simplement travailler et fabriquer votre pain.
C'est ça. On refait un tri juste avant le passer dans le moulin, et après on fait au moulin la farine pour la semaine. Et mais donc pour maintenant qu'on a la farine, il faut la transformer. Sauf que on n'avait pas de On n'avait pas de four, on n'avait pas de fournil, on n'avait rien. Donc on s'est dit, c'est pareil, on a regardé les bâtiments qu'on a, on s'est dit où c'est qu'on pourrait faire un fournil, où c'est qu'on pourrait fabriquer un four. Et donc on a regardé par rapport à ce que moi j'avais, on a regardé par rapport à ce que Damien avait, et Damien il avait un paillet. Un paillet, c'est dans la vallée de la Garonne, il y en a quelques-uns, ce sont des lieux où autrefois, lors des inondations, étaient stockés le grain, la paille, les bêtes. Donc c'était des piliers. Maintenant, on voit beaucoup de piliers, mais il n'y a plus le plancher au-dessus de ces piliers dans lequel venaient les bêtes et les céréales à l'époque des inondations. Donc Damien, il avait ce paillet qui était à réhabiliter. Et donc on s'est dit, ben, pourquoi pas se servir de ce paillet pour faire le fournil et le four. Il y avait 5 piliers et un mur, donc on partait de loin. Et on a réhabilité les piliers, le mur, on a creusé, on a fait un four, on a fabriqué un four durant ce printemps.
Un four qui avait fonctionné à quoi alors ?
Un four à bois qu'on a fabriqué avec un troisième Damien qui était le maître d'œuvre de ce four, parce que nous...
Donc c'est le pain des 3D.
C'est ça, c'était le pain en 3D, oui. On ne se sentait pas non plus l'âme de maçon pour fabriquer de nous-mêmes un four, surtout quand on s'est dit quitte à fabriquer un four, autant le faire pour qu'il nous dure un moment, quoi. Et donc, on a trouvé ce Damien qui est en Haute-Pyrénées, qui est venu, qui est descendu de sa montagne pour nous aider à construire ce four. Donc, c'est un four, un grand four, quoi, mine de rien. Il fait 9 mètres carrés à l'intérieur. Et donc, on a fabriqué ce four en matériaux, en terre cuite, en sable, en terre, en fonte pour des parties. Et on a réhabilité tout le paillet en fournil, donc avec des murs en chaux-chambre, avec une charpente en douglas fabriquée par un artisan de Bassan, le village à côté. On a, à part la charpente, on a tout fait nous-mêmes, la couverture, l'électricité, l'eau, le sol, le carrelage en carreau de Gironde. Et donc maintenant, voilà, on a notre fournil opérationnel, on peut faire du pain.
D'accord, ça sera la troisième partie de l'émission. Nous avons parlé du terroir, nous avons parlé de la céréale qui se transforme en farine. Eh bien, nous allons parler maintenant, et tout à l'heure, après un morceau de musique, une chanson qui a été écrite par un poète, encore un, oui, qui aimait les jeux de mots d'ailleurs. Ce poète nous a quittés, il était du bassin méditerranéen, il s'appelait Charles, il se prénommait Charles, il se nommait Trenet. Il a écrit une chanson qui a été traduite dans toutes les langues et que tous les grands chanteurs ont chanté dans le monde entier, « La mer ».
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer,
des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie.
La mer qui vient nous inonder alors que nous sommes en train de parler de terroir et de terre. Nous avons parlé bien entendu de Barry, ce petit village de 300 personnes entre le canal et la Garonne. Nous avons parlé avec Damien qui est un collaborateur de cette radio ô combien talentueux et ô combien intelligent puisqu'il a décidé de redonner vie à une tradition, la fabrication du pain traditionnel, vous l'avez compris, avec deux autres Damien, et on était en train de parler eh bien, de la fabrication du four. Et nous étions en train de parler avant, bien entendu, de la farine, et avant de la céréale, et avant du terroir. Donc on continue le cheminement, nous nous promenons, nous vaquons, avec beaucoup de magie et beaucoup d'images. Et moi j'ai des effluves dans le nez, eh bien, de cette odeur de céréales qu'il nous a développée tout à l'heure quand on stockait les céréales au premier étage. Et puis cette odeur de grains que l'on va moudre sans le faire chauffer, sans l'exciter, pour ne pas que la farine soit brûlée, pour avoir toute la bonne valeur alimentaire, bien entendu, de cette farine qui est très riche. On t'écoute, Damien, parce que c'est passionnant ce que tu nous racontes. Véritable histoire, et vous êtes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Francis Virpinte, le président de cette radio, est aux manettes. C'est lui qui fait des sélections de musique, des sélections de morceaux. Et on l'embrasse très très fort, on lui fait des très beaux câlins, mon petit Francis. Il est de l'autre côté de la vitrine, il est dans son bocal, il a ses yeux malins et sa petite coiffure, on dirait Tintin. Hein, où il est, Milou? Allez Damien, on t'écoute. Donc on était resté sur la fabrication du four avec un troisième dé, le Damien du trio Infernal.
C'est ça, du coup, c'est un four à gueulard. Donc, il y a différents types de four à bois. Soit en chauffe direct sur la sole. Alors,
la sole qui est importante, puisque pour la boulangerie, il faut un four à sole. C'est-à-dire que c'est la partie basse qui chauffe et non pas la partie haute.
C'est
et
ça.
Pas de ventilation surtout.
Et du coup, ben là, c'est plutôt que de faire le feu sur la sole, on fait le feu dans un foyer qui est sous la sole. Et il y a un gueulard qui se met donc au-dessus du foyer et qui envoie la flamme à l'intérieur du four. Donc on avait choisi cette option par plus de facilité. On n'a pas à sortir les braises chaudes du four. On n'abîme pas la sole avec ces braises qui sont chaudes. Mais du coup, il faut chauffer plus, il faut envoyer de la flamme pour chauffer le four. Quoi.
Comprenez que pour le pain, pour faire du bon pain, il faut que ça chauffe par-dessous, pour lever, et non pas par-dessus ou sur les côtés. Donc c'est pour ça que le four à sole est important par rapport à la texture et à l'originalité de la pâte à pain telle que l'on utilise avec un cépage de céréales et le levain.
Et c'est, du coup, pour la cuisson du pain aussi, c'est une chaleur descendante. Donc on enfourne à quand même à bonne température. Là, les dernières cuissons, on enfournait autour de 280, mais quand tu mets 100 kg de pâte crue, ben, la température elle baisse.
Elle chute d'un seul coup.
Et après, ben, elle continue à baisser tranquillement malgré l'inertie du four. Quoi. Et donc ben, maintenant qu'on a le four, on peut faire du pain. Quoi.
Alors
donc,
tu mets quel bois dans ton four?
Actuellement, c'est de l'acacia et du châtaignier.
D'accord, acacia châtaignier.
C'est ça. Alors,
vous contrôlez la température comment?
Eh bien, on a une sonde dans la voûte, mais déjà, notre four, il faut, avant d'avoir pu faire du pain dedans, il a fallu le chauffer. pour le dérhumer. Ce qu'on appelle le dérhumage, c'est le séchage des mortiers. Parce que si tu chauffes, dès que le four est fini, tu chauffes tout, tu vas tout faire péter. Parce qu'il y a énormément d'eau. Là, le four, il doit peser une quarantaine de tonnes.
Excusez-moi.
Il y a une quarantaine de tonnes de matériaux, donc il y a beaucoup de mortiers et beaucoup d'eau à faire sécher. Du coup, on avait tout un protocole de chauffe, de mise en chauffe. Il a fallu faire 52 chauffes progressives avant de pouvoir faire du pain dedans. Donc on l'a allumé le 31 juillet, on a pu faire sortir nos premiers pains autour du 15 septembre pour pouvoir le monter en température. Et cette température optimale n'est pas encore atteinte. Il faut chauffer l'ensemble, que toute la voûte soit chaude également, pour pouvoir... Et là, on y arrive, on s'y rapproche. Du coup, pour l'instant, notre thermomètre de voûte est à titre indicatif. Et après, on a un thermomètre laser pour nous donner aussi un titre indicatif sur la température de la sole et de la voûte pour savoir quand c'est le bon moment.
Alors, ce qu'il fallait savoir, c'est que dans le comté de Nice, il y a fort longtemps, il y a quelques siècles en arrière, les boulangers ont inventé la pizza sans le savoir parce qu'ils utilisaient, ils n'avaient pas de thermomètre, ils n'avaient pas de thermomètre laser, ils n'avaient pas de pistolet laser, ils n'avaient pas de... Bref. Donc le matin, quand on faisait le pain, pour vérifier la température du four, on mettait un petit morceau de pâte que l'on étalait à plat et on mettait dessus quelques tranches de tomates, un morceau d'anchois, un petit morceau d'olive. C'était le casse-croûte du boulanger, en fait. Et c'était ce thermomètre-là, on le mettait à l'intérieur du four pour voir comment la pâte réagissait. On disait, c'est bon, on peut y aller ou non, il faut encore attendre. Mais comme on était économe, eh bien on mangeait ce petit morceau de pâte avec de la tomate, avec des anchois, avec un petit peu tout et n'importe quoi. La pizza était née de façon accidentelle.
D'accord. Eh oui. Et donc voilà pour maintenant pour le four et donc maintenant pour faire le pain. Donc on avait discuté avec un charpentier voisin qui, en le chambrant un peu, en lui disant « Bon, tu pourrais nous fabriquer un pétrin ?» Et lui, il s'est dit « Ok, je vous ferai qu'un pétrin. » Donc, il a récupéré du bois du peuplier qui avait poussé en bord de bassin pour faire les pieds. Et le seul bois autorisé en cuisine, bois alimentaire, c'est l'hêtre. Mmh. Donc, il nous a fabriqué le pétrin, proprement dit, avec du bois de hêtre qu'il avait récupéré en Alsace, celui-là.
Oui, dans ma région, pas loin de ma région d'origine. Alors effectivement, on fait des pétrins là-bas qui s'appellent des mets.
Oui, c'est ça. Ça ressemble à une mets de cochon.
Exactement. C'est une mets que l'on utilise pour faire la pâte à pain avec un couvercle qui se referme. J'en ai une magnifique à la maison qui vient de Franche-Comté, qui vient de la ville de Morteau à côté de Villers-le-Lac à la frontière suisse, dans le Haut-Doubs. On salue la Franche-Comté s'il y a des Franc-Comtois qui nous écoutent.
Et donc maintenant, ben voilà, on fait le pain. Donc on fait ça dans un pétrin manuel. On pétrit tout à la main. Donc on met la farine, on met de l'eau, du sel qui vient de l'île de Ré, notre levain, et puis après voilà, on mélange.
Et pourquoi du sel de l'île de Ré ?
Parce que c'est un palétuvier qu'on a trouvé qui correspondait à nos attentes.
Un paludier, tu veux dire.
Un paludier, oui. Un
palétuvier, oui, c'est une chanson.
Ouais, c'est
c'est dans la mangrove.
Un paludier, du coup, il correspondait à nos attentes. Et puis, voilà, pour le moment, on est content de son sel. Et en même temps, c'est là les salins les plus proches de chez nous. Quoi.
Donc, oui, alors il y a une saline, je te le souligne, tu ne le sais peut-être pas, mais enfin peut-être. Il y a Salis de Béarn.
Oui.
Il y a du sel absolument exceptionnel. Et je vous en fournirai quelques kilos. Vous ferez un essai avec le sel de Salis, voilà, de Béarn. Sans pour autant, bien entendu, venir faire de la concurrence au paludier des Charentes.
Oui. Donc, voilà. Et
la levure, je crois que le levain, il ne faut pas qu'il touche le sel. Hein.
On mélange le sel à l'eau. Voilà. Et comme ça, après, on met le levain dedans et en avant.
Il y a une chose que tu ne nous dis pas non plus, c'est la température de l'eau par rapport à la farine.
Eh bien, en fait, on vise une température, la somme des trois, donc de l'air, de la farine et de l'eau, autour de 72 degrés.
D'accord.
Du coup, on joue sur la température de l'eau par rapport à la température de l'air et de la farine.
Voilà, c'est important. Donc l'hiver, il faut chauffer un peu l'eau. L'été, il faut la rafraîchir.
C'est ça.
Exactement.
Donc là, on vise cette température entre 72 et 75 degrés. 72, pour l'instant, c'est ce qui est bien.
C'est-à-dire que le mélange, le pâton, si on mettait un thermomètre à l'intérieur, afficherait 72 degrés.
C'est ça. Voilà. Sachant qu'en même temps, quand tu le brasses, ben, comme on disait tout à l'heure, pour le grain dans le moulin, on échauffe. Donc il faut brasser en douceur pour éviter de trop chauffer la pâte non plus.
Ben oui, bien entendu, sinon on va la brûler. Et ça, c'est dommage, parce qu'on peut faire brûler une pâte en faisant une pâte sablée, une pâte feuilletée, une pâte brisée à la maison, chez vous. Quelquefois, vous ratez votre pâte parce que vous avez trop chauffé.
Et oui, du coup, la fermentation ne se fait pas correctement, quoi.
Bien sûr.
Donc voilà, on brasse cela, ce qu'on appelle le pétrissage. Et puis, on laisse reposer une demi-heure. Après, on fait un premier rabat. Donc, faire un rabat, c'est mettre une extrémité de pâte au milieu, l'autre extrémité au milieu, le devant, le derrière. Et puis, voilà, on fait ça. On le laisse tranquille pendant 2 heures de plus. On fait un deuxième rabat. Et au bout de 3 heures donc, de fermentation, on fait notre façonnage. Donc on façonne.
Alors vous faites combien, une tournée de pain, vous faites combien de...
Ben là, on est au max, même je pense un peu trop pour nos corps gaillards. Quoi. On fait jusqu'à 100 kilos de pâte.
Donc 100 kilos de pâte, terminé.
Non, de pâte crue.
De pâte, oui, enfin crue, oui, c'est
oui.
ce que je dis.
Oui, c'est ça.
Avec la farine, l'eau, tout inclus.
Tout compris.
Tout inclus.
Tout compris. Donc le façonnage se fait. Là, on fait trois types de enfin, on fait un pain moulé en 800 grammes, et deux boules en 1 kg et 1 kg et demi.
D'accord.
Donc le façonnage se fait comme ça, dans des bannetons réalisés par Lozeray de Lille.
Ben, bien sûr, elle est à côté.
L'osier qui a poussé sur place.
La toile à l'intérieur.
Pour le moment, ce sont des vieux draps qu'on a transformés en toile.
Et, donc des draps qui ont des histoires à raconter.
C'est ça, et qui le transmettent au pain. Et on laisse une deuxième, le temps d'après, donc en banneton, qui dure... on va dire autour de 2 heures, entre 2 et 3 heures. Et puis là, après, on peut mettre au four.
D'accord. Au four, pendant combien de temps?
On met au four entre 45 minutes et une heure et quart.
Et ça vous donne combien de pièces de pain à vendre?
Ben, ça nous donne 80 kilos de pain, quoi, quelque chose près, quoi.
Autour de sur 100 kilos de pain, il reste 80 kilos
encore,
de pain.
Encore ce rapport de 80%. Il y a 20% de perte d'eau pendant la cuisson. Quoi.
Et vous en faites quoi de ce pain? Parce qu'il faut le vendre.
Ce pain, on le vend. Et on n'en fait pas assez pour pouvoir satisfaire tout le monde. Quoi. Donc, on le vend aux gens du village, aux gens des villages à côté, aux gens de tout le sud d'Irlande, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui font jusqu'à 30 km pour venir le chercher.
Moi, je ne vais pas me gêner, je vais faire même 100 bornes pour venir le chercher, mon pain. Donc, il n'y a qu'une journée de cuisson, si je
On fait deux journées de pain par semaine, le mercredi et le vendredi.
D'accord, mais le pain, de toute façon, se garde.
Le pain se conserve.
Il est meilleur le lendemain, même, parce que quand j'entends... Oui.
Le pain chaud, c'est pas simple à couper et c'est sûr qu'il exprime de meilleurs arômes le lendemain, voire le surlendemain. Quoi.
Bien sûr, d'autant qu'il se repose un petit peu. Et quand je m'adresse aux consommateurs de pain, c'est-à-dire à tous les Français qui nous écoutent, à tous les habitants de la zone de réception de cette fréquence de 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers, eh bien, il faut savoir que la boulangerie a été réglementée. Aujourd'hui, j'aimerais quand même insister et appuyer là où ça fait mal. Beaucoup de boulangers se disent boulangers, mais ne le sont pas. Donc, ils affichent sur leur vitrine pain de fantaisie depuis 1886 ou depuis 1884, si on se réfère à la famille Paul, qui n'est autre qu'un industriel du pain, qui vous annonce du pain frais toute la journée. Bien entendu, il ne peut être que frais puisqu'il sort du congélateur. Tout du moins, la pâte sort du congélateur. C'est cuit sur place. Et les gens mangent du pain qui n'a pas reposé, du pain qui n'a pas eu le temps de reposer, qui n'a pas eu le temps, la pâte est élastique. Et Damien le disait tout à l'heure, c'est craquant au début, ça devient mou au milieu de l'après-midi et c'est immangeable le soir. Vérifiez bien, le mot boulangerie n'est réservé qu'à ceux qui élaborent et réalisent le pain sur place. Sinon, vous n'avez pas le droit de vous appeler boulanger. Voilà. Tous ces gens qui font du pain à la chaîne et qui vendent du pain toute la journée frais, non. Vous, c'est deux fois par semaine, oui. Et vous le vendez au poids.
On le vend à l'unité. Parce qu'on fait des...
Un pain, 800 grammes, tu m'as dit, non ?
800 grammes, 1 kilo, 1 kilo et demi.
D'accord. 1 kilo et demi, ça vaut combien ?
8 euros. On le vend à 8 euros, 5,50 le kilo et 4,50 le moulet en 800 grammes.
Et c'est cadeau et c'est du beau pain avec une mie et une croûte exceptionnelle, avec une petite pointe d'acidité. Ce côté levain naturel que vous... Rappelez-vous, ce levain qui a fait le tour du monde. Un levain qui a fait le tour du monde.
Et ces arômes, alors, on ne sait pas si ça vient de cette variété, parce que moi, c'était la première fois que j'utilisais du blé rouge de Bordeaux. Et la farine, elle a de ces arômes, et le pain avec, que moi, je n'avais jamais senti auparavant. Quoi.
Bien sûr, tu découvres.
C'est exceptionnel, oui. Et du coup, on fait le pain que sur réservation. Parce que dans la démarche, on ne fait du pain que s'il est vendu, pour éviter de gaspiller, et parce que c'est notre propre production. Du coup, on ne fait le pain que sur réservation, et actuellement, on bloque les réservations à 100 kilos.
Donc demain, il y a du pain qui va être cuit.
Demain, il y a du pain qui va être cuit.
À quelle heure on peut passer l'heure en acheter ?
Les ventes se font entre 6h et 20h, entre 18h et 20h.
D'accord.
Mais tout est réservé depuis mardi dernier.
Ah d'accord, si j'en veux une boule, je peux pas.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Oui.
Et donc, du coup, il y a des gens qui se mettent sur liste d'attente au cas où il y ait des boules en plus, mais c'est un peu compliqué là.
J'ai les boules, mais je ne les ai pas.
Donc là, si on veut du pain, c'est pour la semaine prochaine, mercredi ou vendredi.
Mercredi ou vendredi, je m'inscrirai parce que j'ai envie de reprendre du plaisir. Et moi, j'ai envie de dire, quelle belle histoire, quoi. On pourrait tenir toute l'après-midi, toute la journée en parlant de pain et d'imaginer cette découverte. Alors bien entendu, ce n'est pas du pain blanc. Quelle est la couleur de ce pain ?
Il est, je ne sais pas quoi, crème ?
Il est crème.
Crème, hein, j'ai envie de dire.
Ouais.
Oui, un peu plus foncé que la table. Là.
D'accord, il est crème, bien entendu. Alors il y a plein de valeurs alimentaires. C'est du vrai pain avec des vraies céréales, avec des vraies graines, du rouge de Bordeaux qui n'a rien à voir avec le vin rouge. Puis on va continuer cette belle balade cet après-midi au pays des céréales, au pays des grains, au pays... Ah oui, ben je les vois là. Il me passe son téléphone portable et ça c'est génial. Oh putain que c'est beau. Excusez-moi, ça fait deux fois que je dis ce mot et je ne le pense pas. Mais c'est vraiment magnifique avec ce côté fariné, ce côté farineux, ce côté irrégulier, des boules qui ont cuit dans les bannetons. Ça c'est vraiment génial. Et très sincèrement, tu m'interpelles par rapport au prix, quoi. Puis alors... La cuisson du pain dans un endroit où il y a un four à pain, c'est quelque chose d'inimitable et inimaginable, quoi.
Oui, de voir pousser le pain. Quand on commence à enfourner, déjà, là, tu fais une première ligne au fond du four, et puis quand tu reviens à ta deuxième ligne, tu vois que le premier pain, il a commencé déjà à monter. Ah ouais. Et donc, c'est assez magique à voir. Et quand tu fermes le four, que tu envoies l'eau... Enfin, la vapeur pour apporter ce côté doré et croustillant de la croûte. Et tu attends et tu rouvres au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Et là, tu vois tes pains qui sont tout dorés. C'est vrai que c'est magique. Quoi.
C'est magique. Dire qu'au départ, on est parti sur un fermage de quelques hectares de terre, inondable et inondé.
C'est ça.
Et pour arriver à je dirais, cette nourriture hautement plus que symbolique et spirituel, ce fameux pain exceptionnel. Damien, c'est du pur bonheur, je vois dans tes yeux transpirer cette passion qui me... Et bon Dieu, que c'est contagieux ton histoire. On va écouter une troisième chanson. Il n'y avait pas que des hommes aujourd'hui qui chantaient. Les deux ont disparu. La troisième nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Une femme engagée, une femme simple, une belle femme, comme nous les aimions. Elle a chanté des chansons de Serge Gainsbourg sans savoir ce qu'elle chantait. La pauvre gamine, elle avait 18 ans, on lui a fait chanter Les Sucettes à l'Annie. Mais là, c'est une autre chanson dont on va parler, Madame France Gall ou Mademoiselle France Gall. Eh bien, de là où vous êtes, je sais que votre association continue d'exister, elle l'a, et que beaucoup d'émissions de radio, de télévision, eh bien, font des émissions spéciales pour récupérer des fonds. Et je crois que TF1 en ce moment est en train de le faire avec les 12 coups de midi et Jean-Luc Reichmann, et nous saluons cette initiative. Mais vous allez nous parler d'une chanson fraîche, sympathique. On vous imagine, on va fermer les yeux et on va écouter cet empereur qui était sacré, sacré Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui. Sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Quand il s'est passé 4 et 4 font 8, leçons de français, de mathématiques, que de travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, et voilà.
Et voilà, la chanson était courte, c'était l'époque des années 60, des yéyés. Et on se rend compte combien elle nous manque aussi, cette sacrée France Gall. Mon Dieu que tu nous manques, ma petite puce, on te fait des gros bisous. Tu brilles au ciel. Damien, nous avons parlé de pain. Est-ce que vous avez l'intention de prendre une autre dimension? Moi, votre initiative me touche, votre initiative me parle, votre initiative est certainement ce que j'ai entendu de plus intelligent depuis ces dernières années, revenir à des fondamentaux, revenir aux vraies valeurs, revenir tout simplement aux choses simples qui sont les meilleures. Est-ce que vous n'avez pas envie de dupliquer votre idée? Est-ce que vous n'avez pas envie de donner envie tout simplement? J'ai dit tout à l'heure que c'était contagieux.
On pourrait, vu comment ça démarre, après il ne faut pas s'emballer non plus, passer le départ, on sait qu'il y a le côté curiosité, mais les retours sont quand même tous plus positifs les uns que les autres et nous encouragent à avancer dans ce sens-là. On pourrait s'emballer parce qu'on a des demandes pour vendre notre pain sur Bordeaux, pour aller à droite à gauche, et du coup on se retrouverait qu'on n'aurait plus de farine au mois de mars. Donc déjà il faut essayer de faire avec ce qu'on a, parce que n'étant pas boulanger, on ne peut pas acheter de grains ou de farine, parce que pour pouvoir acheter de la farine et la transformer, il faut être boulanger, donc avoir le CAP. Nous on n'est pas boulanger, on est des paysans qui transformons notre production, donc il faut faire avec ce qu'on a. Donc, dans un premier temps, on va bien se faire la main. On va apprendre cette année à faire le pain, à maîtriser le four. Et déjà, on répond à la demande localement, ce qui est bien. Et au fur et à mesure, on va peut-être semer plus. Cette année, on va essayer de semer 10 hectares pour avoir plus de farine l'année prochaine, enfin de grains pour faire de la farine.
Un tiers en plus, oui.
C'est ça, on va essayer de diversifier aussi notre grain, parce qu'on avait récupéré l'année dernière des blés de population. Ce sont des mélanges de différentes variétés de blé dans un lot. Du coup, on avait multiplié ça l'année dernière. On avait 20 kilos à la base. Maintenant, on en a récupéré entre 70 et 80 kilos suivant.
C'est blé de population.
C'est blé de population. Donc, on va ressemer cette année. Donc, l'année prochaine, il faut espérer qu'on en ait encore un peu plus et qu'on puisse commencer à en transformer un peu en farine. On avait semé du seigle l'année dernière qu'on a multiplié. Cette année, on va le semer. Et donc, l'année prochaine, on pourra proposer aussi du seigle, enfin, du pain avec du seigle. À la carte, on va dire. Et voilà, on va essayer de multiplier ça, d'avoir des différentes farines, et donc après de faire nos recettes par rapport à la farine pour essayer d'apporter des pains différents. Mais dans un premier temps, voilà, on va essayer de bien se faire la main, pas s'emballer, et puis après, ben, on verra si on a la possibilité de répondre à toute la demande qu'on a. On pourra faire plusieurs fournées par jour, avec normalement une seule chauffe, voire faire deux chauffes, mais on pourra essayer de faire plusieurs fournées par jour de cuisson.
Oui, le mercredi et le vendredi.
Voilà, et donc...
T'as pas oublié, j'avais réservé deux boules pour demain, hein.
pour la semaine prochaine. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir bien prendre en main notre outil de travail, le four, le pétrin, bien maîtriser les temps de fermentation aussi. Et puis après, on ajustera pour répondre à la demande.
Bien sûr. Et l'objectif ?
L'objectif, c'est déjà de réussir à payer nos emprunts. Parce que les banques ont été gentilles avec nous, il n'y avait pas de problème pour nous suivre. Maintenant, il faut rembourser.
Je m'adresse. Quelle est la banque ou les banques qui ont prêté ?
La Banque Populaire.
Alors, je m'adresse au directeur de la Banque Populaire de la Réole de Langon. Je m'adresse à la Banque Populaire de Langon. Je voudrais leur dire tout simplement qu'ils ne s'inquiètent pas. Ils n'ont pas des amateurs en face d'eux, mais ils ont de vrais professionnels et leur souci, c'est de rembourser leur emprunt. Donc, voyez-vous, ça, c'est quand même un peu génial d'entendre cela. Plutôt que de dire, de faire du fric, non, ils veulent d'abord rembourser leur emprunt. Oui, le bocal me fait signe qu'il nous reste plus que 2 minutes. Je vais te laisser les 2 minutes de parole qui restent parce que ce que tu nous as dit était tellement passionnant, Damien. Je te laisse le mot de la fin. Il te reste 100 secondes. Allez, tu as 100 secondes pour t'exprimer.
Déjà, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à fabriquer le four, que ce soit au niveau main-d'œuvre ou financier aussi, parce qu'on avait lancé un financement participatif en juin pour nous aider à fabriquer ce four. Merci aussi à tous les clients qui viennent acheter nos pains et qui reviennent toutes les semaines en nous en commandant un peu plus et qui en parlent à leurs voisins, à leurs amis. Ça fait vraiment plaisir. Et merci à toi, Gérard, de nous avoir donné la parole ce mois-ci. Et les gens peuvent nous trouver sur cagette.net. C'est un site qui nous permet de passer les commandes en cherchant le fournil des Dams. Et pour passer commande, c'est le plus simple, ou alors nous contacter directement par téléphone.
Damien, en dehors du fait que tu es un collaborateur de cette radio, donne le numéro de téléphone.
Le 06 87 49 46 92.
Répète-le une fois.
06 87 49 46 92.
Bon week-end à toutes et à tous, nous sommes vendredi. Nous souhaitons à tous les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4, à Damien en particulier, à Francis dans son bocal, un excellent week-end et que cela soit contagieux. Embrassons-nous, embrassez-vous, plein de bonnes choses. Bisous, câlins, mes amours.
Merci.
Pour mes amours, je suis la fleur.